Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Donc nous sommes le jeudi 6 janvier. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le Covid qui bouscule le monde du sport et cette affaire rocambolesque au sommet du tennis mondial. Novak Djokovic retenu à l'aéroport de Melbourne, son opposition à la vaccination ne passe pas en Australie, on verra ça. Anaïs, après les autres titres.
Eh bien en France, le pass vaccinal finalement adopté il y a 2 heures en première lecture à l'Assemblée nationale. Les États-Unis commémorent aujourd'hui l'assaut du Capitole il y a 1 an. Donald Trump mis en cause par la commission d'enquête. Et puis les lieux et les arts des immigrés maghrébins en France depuis les années 60. L'expo Douce France à la fin de ce journal.
Et les invités d'Inter aujourd'hui à 7h50, Léa Salamé.
Alors que la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois, invité exceptionnel à 7h50, la présidente de la Commission européenne qui sera à Paris aujourd'hui et demain, Ursula von der Leyen, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Vos questions, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est le coup de théâtre des douaniers australiens où quand le Covid, l'obligation vaccinale, la politique intérieure et le sport cohabitent difficilement. Le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, opposé à la vaccination obligatoire, bloqué à son arrivée à l'aéroport de Melbourne. Grégory Pless, vous êtes notre correspondant à Sydney. Le joueur serbe avait pourtant obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'était vrai au moment où Novak Djokovic lui-même en a fait l'annonce hier, juste avant de décoller depuis Dubaï. Mais 15 heures plus tard, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, ça n'était déjà plus vrai. À ce moment-là, la police aux frontières australiennes a décidé de réexaminer toutes les pièces du dossier déposé par le joueur serbe et estimé quelques heures plus tard qu'il n'avait finalement aucun motif valable pour bénéficier d'une exemption à la vaccination anti-Covid. La vaccination, c'est un impératif pour entrer en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison l'a rappelé ce matin. Il a aussi insisté sur le fait que cette règle s'imposait à tous. Écoutez-le.
Les gens sont bienvenus en Australie, mais si vous n'avez pas reçu 2 doses de vaccin et que vous n'êtes ni un citoyen ni un résident permanent, vous ne pouvez pas venir. Les règles sont les règles et on ne fait pas de cas particuliers.
Et Grégory, il faut dire que Novak Djokovic avait déclenché un tollé dans l'opinion publique australienne quand il avait annoncé sa venue.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a encore quelques mois, la stratégie de l'Australie vis-à-vis de la pandémie, c'était le zéro Covid. Cette stratégie, elle s'est traduite depuis plus de 18 mois pour la population par des contraintes extrêmement lourdes imposées pour endiguer dès les premiers signes la propagation du virus. Ça a plutôt bien fonctionné, mais le prix à payer a également été très lourd. C'est particulièrement vrai pour Melbourne qui accueille cette Open comme chaque année, une ville qui avec 262 jours au compteur détient le triste record de la ville qui a été la plus confinée au monde.
Mais oui, merci Grégory Pless en direct de Sydney. Les juges étudient d'ailleurs en ce moment le recours déposé par Novak Djokovic contre son expulsion. Certains s'interrogent sur les conséquences de cette affaire sur la suite de sa carrière, mais elle est déjà en train de créer un incident diplomatique. Le président serbe exige que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis au monde cesse aussitôt que possible. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés ont discuté toute la nuit pour adopter au petit matin à 5h30 le projet de loi sur le pass vaccinal. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous suivez ces séances à rebondissement depuis 3 jours et au final, une large adoption.
Oui, au bout de la nuit, vous l'avez dit, il était 5h25 exactement à l'Assemblée.
Voici le résultat du scrutin pour 214 contre 93.
C'est la fin d'un politico-drame.
Nous arrivons donc au terme d'un débat qui laisse un goût amer vu le déroulé grand-guignolesque qu'il aura eu.
Les déclarations du président de la République ont absolument disqualifié le pass vaccinal.
Le LR, Yann Boucard et l'UDI, Pascal Brindeau s'indignent. Une dernière fois, le marcheur Guillaume Gouffier-Cha, lui, préfère en rire.
Je n'irai pas beaucoup plus loin, mes chers collègues, car l'heure est tardive et je ne veux pas vous emmerder plus longtemps.
La majorité peut souffler, elle s'est largement mobilisée cette fois pour éviter la déconvenue. Seulement 3 dissidents. Comme prévu, les communistes ont voté contre, les insoumis d'Hugo Bernalici aussi, qui n'hésitent pas à faire de l'hémicycle une tribune de campagne.
Françaises, Français, vous êtes les bienvenus dans nos meetings, sans passe sanitaire. Venez comme vous êtes, en responsabilité, pour gérer la pandémie dans la liberté.
Les socialistes ressortent divisés comme les républicains, un tiers pour, un tiers contre, un tiers d'abstention. Les députés de droite n'ont pas fait bloc derrière leur candidate Valérie Pécresse, pourtant favorable au pass vaccinal. Le calcul d'Emmanuel Macron a donc fonctionné, forcer ses adversaires à durcir leur position ou à afficher leurs contradictions. En attendant, les alertes sur les libertés publiques seront passées au second plan.
Merci Simon Le Baron. Et avec ce projet de loi, entre autres, les cafetiers pourront vérifier l'identité des personnes qui présentent leur passe. On voit tout ça en détail à 8h. Avec le passage au Sénat qui est décalé, le texte ne pourra pas entrer en vigueur avant le 15 janvier. Alors que l'épidémie devient affolante, 330 000 cas en 24 heures et le nombre d'enfants de moins de 9 ans en soins critiques augmente. 51 ce mardi, il n'était que 25 il y a une semaine. Anne Ornstein, cette hausse ne fait sans doute que commencer.
Cette fois, selon le professeur Robert Cohen, président de la Société de pédiatrie française, ce n'est pas l'école qu'il faut incriminer dans cette augmentation.
Elle est due à la forte circulation, à la fois du Delta, puis de l'Omicron, dans la population des 20 à 40 ans, qui est l'âge de leurs parents, pendant les vacances scolaires.
Les enfants ont peu de risques de développer des formes graves. Ceux qui sont hospitalisés sont donc soit atteints d'une autre maladie de l'hiver, bronchiolite ou grippe, soit avec une comorbidité. Ou alors ils ont moins de 3 mois et sont plus vite hospitalisés pour surveillance. En réanimation, la moitié des cas sont dus à des syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques, les PIMS. Ils surviennent en général 3 à 4 semaines après l'infection au Covid. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui les médecins. Le professeur Fabrice Michel est le chef du service d'anesthésie et de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille.
Les PIMS, ils ne sont pas encore là. Les PIMS vont arriver dans 15 jours et ça nous inquiète un peu parce que pour le coup, bon, ça représentait quand même un certain nombre de patients en réanimation sur les dernières vagues, un petit peu en décalé. Et donc, on a un peu peur d'en avoir beaucoup d'un coup pour les semaines à venir, sans doute plus que les fois précédentes là aussi.
Autre grande inconnue, les effets spécifiques du variant Omicron sur les enfants. Mais pas de quoi être inquiet, disent les pédiatres, seulement vigilants.
Et cette inquiétude des pédiatres s'est aussi à retrouver dans un article sur franceinter.fr. L'Italie, qui bat elle aussi des records de contamination, décide de rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. Le président du Conseil assume d'intervenir sur les classes d'âge les plus à risque d'être hospitalisées pour réduire la pression hospitalière.
Il est 7h08, un an après l'assaut du Capitole à Washington. Les États-Unis, Anaïs, plus divisés que jamais.
C'était le 6 janvier 2021. Le monde assistait stupéfait à ces milliers de partisans de Donald Trump prenant d'assaut le Congrès pour empêcher les parlementaires de certifier la victoire de Joe Biden. Le président américain s'exprimera cet après-midi pour commémorer l'événement et va sans doute dénoncer la responsabilité de son prédécesseur. Donald Trump mis en cause aussi, Sébastien Paour, par la commission d'enquête.
Il a encouragé la foule de ses partisans à marcher sur le Capitole et il a tardé à s'exprimer pour faire cesser les violences. Voilà les dernières conclusions de cette commission spéciale. Son président, Benny Thompson, sur ABC. Nous avons des témoignages significatifs qui nous poussent à croire qu'on a demandé à la Maison-Blanche d'intervenir. Nous voulons vérifier tout cela. D'après les témoins entendus par la commission, Trump suit les événements à la télévision dans le salon voisin du bureau ovale, mais ne bouge pas, malgré les demandes de plusieurs de ses proches, dont sa fille Ivanka, de quoi le disqualifier pour un second mandat, d'après Liz Cheney, l'une des rares représentantes républicaines au sein de cette commission d'enquête, également sur la chaîne ABC.
Tout homme qui provoque un assaut violent sur le Capitole pour stopper la certification du vote, tout homme qui regarde la télévision alors que des policiers sont frappés et que ses partisans envahissent le Capitole des États-Unis est clairement inapte à un futur poste de président. Il est clair qu'il ne pourra plus jamais approcher le bureau ovale.
Trump finit par publier une vidéo ce 6 janvier. Il dit à ses partisans qu'il les aime et leur demande enfin de rentrer chez eux en paix. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Sébastien Paour qui revient dans le Zoom après le journal sur les traces laissées par cette journée chez les républicains américains. Au Kazakhstan, les troubles tournent au carnage. Des dizaines de manifestants tués par la police. La Russie envoie une force de maintien de la paix à la demande du président kazakh.
Et l'audience doit reprendre aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
Quelques jours de retard après l'isolement du principal accusé, Salah Abdeslam, positif au Covid. On devrait savoir assez vite s'il est bien en état de comparaître. La cour va étudier à partir d'aujourd'hui les faits reprochés aux accusés. Des dizaines de milliers de signataires partout en Europe pour demander l'interdiction de la pêche au chalut. L'Union européenne a ouvert une consultation publique sur ce sujet qui divise. Les scientifiques et les ONG demandent une interdiction de cette pêche dans certaines zones pour empêcher la disparition de certaines espèces. Célia Kiray.
Ces grands filets qui raclent les fonds marins abîment durablement les écosystèmes. Pour certains scientifiques comme Joachim Claudet du CNRS, il n'y a pas de doute, la pêche au chalut est la technique la plus dangereuse pour les habitats marins.
C'est une pratique qui est très peu sélective, qui va pêcher un grand nombre d'espèces. Pour partie, ces espèces ne sont pas ensuite exploitées, donc soit elles sont rejetées, soit elles sont réduites en farine pour de l'aquaculture. Et les chaluts, en raclant le fond, vont également détruire les habitats dont les espèces ensuite elles-mêmes dépendent. C'est là où les écosystèmes mettent le plus de temps à se régénérer quand ils peuvent le faire.
Pour ce chercheur comme pour les ONG, il faut donc interdire la pêche au chalut dans les aires marines protégées, notamment en Europe du Nord où cette pêche est très active. À l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Alain Bizot estime également que certains espaces, peut-être plus réduits, doivent être préservés.
Dans des zones particulièrement sensibles, vulnérables, avec des habitats comme des coraux ou des herbiers, l'interdiction d'engins qui traînent sur le fond paraît assez justifiée.
L'Union européenne a l'ambition de protéger 30% de son espace maritime. Elle pourrait donc décider d'interdire cette technique de pêche dans certaines zones placées en protection forte. Une façon de limiter la disparition des espèces et d'assurer un meilleur avenir à la pêche.
Et la consultation publique de la commission est ouverte jusqu'au 10 janvier. La présidente de la commission est l'invitée de Léa Salamé à 7h50. Des cabarets orientaux des immigrés des années 60 au Beurre is Beautiful des années 80. Plongeons dans l'exposition 12 France au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Elle nous fait découvrir les lieux créés par les immigrés maghrébins au lendemain de la décolonisation. Mathieu Culeron.
Des photos d'immigrés débarquant en France dans un pays inconnu, l'atmosphère recréée des très chics cabarets orientaux des années 60, ou encore l'émergence du mouvement Beurre expliqué en chanson, l'exposition 12 France nous raconte les musiques de l'exil en s'attardant sur une personnalité, Rachid Taha, jeune Algérien installé en Alsace. Maxime Delpierre, directeur musical du chanteur, se souvient de sa vision musicale entre Orient et Occident.
Ce qu'il disait, c'est qu'il voulait faire la rencontre entre Oum Kalsoum et Elvis Presley. C'est les clashs qui ont complètement fâché sur Rachid à l'époque de Carte de Séjour. Pour eux, Rachid, c'était un chanteur de rock. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même histoire que nous avec l'Algérie. Je dis qu'à l'époque où j'ai travaillé avec lui, c'était il y a 5 ans. Il avait encore une carte de séjour.
Rachid Taha, qui est reparti faire des concerts au Maroc ou en Tunisie, toujours engagé, Maxime Delpierre, son guitariste, se souvient des émeutes qu'il pouvait engendrer.
On a joué avec quand même une armée de chaque côté de la scène. Il y avait des militaires armés pendant tout le concert qui craignaient une émeute. On a joué à Tozer, c'était très peu de temps après le printemps arabe. Toutes les discussions tournaient évidemment autour de ce sujet-là. Et quand il est arrivé sur scène, la première phrase qu'il a sortie au micro, c'était « Alors, vous avez troqué la peste contre le choléra ».
12 France nous conte une histoire presque oubliée, celle d'une culture métissée de plus de 40 ans qui sera reconnue et admirée dans le monde entier. Une expérience immersive dans le très bel écrin du Musée des Arts et Métiers.
Et 12 France est à voir jusqu'au mois de mai.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes, un an après l'assaut du Capitole, rencontre avec des Trumpistes de Pennsylvanie.